L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Ce matin, je commence un enseignement qui s'appelle la foi triomphante. Et ça va être un temps, c'est une étude, mais en même temps, c'est une prédication. Donc, prenez ça comme vous voulez, mais c'est un temps pour vous, pour recevoir la parole de Dieu, pour grandir dans votre foi et en même temps, vivre une percée dans votre vie chrétienne. Amen. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec ça? Amen. Donc, ce matin, je vais vous inviter à pencher vos têtes. On va remettre ce temps maintenant pour l'enseignement de la parole de Dieu. Et je m'attends que vous allez vivre des choses dans sa parole. Amen. Père éternel, on veut te remercier, Seigneur Jésus, pour le bon temps qu'on a eu ce matin. On te remercie pour ta présence qui est ici avec nous. Et on te remercie également ce matin pour ton Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. On veut te remercier, Seigneur Jésus, aujourd'hui, d'ouvrir notre intelligence, nos cœurs, Seigneur Dieu, pour qu'on puisse vraiment recevoir ta parole et pour que cette parole porte du fruit dans nos vies. On a prié au nom de Jésus et pour ta gloire, Seigneur. Amen. Amen. Donc, ce matin, j'aimerais ça vous inviter à tourner dans Matthieu chapitre 11, versets 25 à 30. Chapitre 11, versets 25 à 30. Hier, on a commencé, c'était en fait la rentrée pour nos élèves à l'Institut biblique Enseigne-moi Campus La Victoire. Et on a vraiment eu du bon temps ensemble. C'était une journée le fun, je crois. Et puis, pendant ce temps-là, j'ai mentionné des choses que je vais vous enseigner ce matin. Des choses que j'avais sur mon cœur, que je trouvais qui étaient vraiment importantes. On a commencé l'enseignement du livre Le Disciple Victorieux. Et en enseignant ce livre-là, c'est impossible sans leur donner un peu le fondement que je vais vous donner aujourd'hui, parce que j'avais trop hâte de le partager. Vous savez, et aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va revoir certaines choses que j'ai prêchées hier, là, rapidement, mais parce que ce que j'ai vraiment à cœur, c'est vous aider à développer la foi que le Seigneur vous a donnée. Et une des choses, il y a des pièges. Des fois, on pense qu'on arrive à une place dans notre vie spirituelle, mais il y a des pièges parfois. Et ce matin, ce qu'on veut faire, c'est vraiment connaître le chemin de la victoire, connaître le chemin de la foi. Et comme on marche dans cette direction-là, sachant qu'il y a des pièges que l'ennemi dresse devant nous, bien, on va les éviter. Gloire à Dieu! Donc, ce matin, le thème, c'est la foi triomphante. Comme je l'ai dit, on va aller dans Matthieu chapitre 11, versets 25 à 30. Mais avant ça, j'aimerais vous donner un verset clé qui est dans 1 Jean 5, 4, qui dit « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Avez-vous passé par l'expérience de la nouvelle naissance? Amen. Donc, vous êtes vécu cette nouvelle expérience, donc vous pouvez dire que ça, ce verset-là m'appartient. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, c'est vraiment, vraiment important pour nous d'être renouvelés dans nos pensées et de saisir le véritable message de la foi. Amen. Et dans Romains 1, 7, ça dit que le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Romains 1, 17. Donc, si on est censé, nous les justes de l'Éternel, si on est censé de vivre par la foi, c'est bon de s'exposer à un message qui nous enseigne comment vivre par la foi, n'est-ce pas? Parce qu'on peut vous dire, bien, il faut vivre par la foi, il faut faire ci, il faut faire ça, mais sans savoir le comment, on passe à côté. Donc, le juste vivra par la foi et on sait qu'on marche toujours dans la victoire, selon 1 Jean 5, 4. Mais aussi, en même temps, ça nous dit comment on peut faire pour recevoir cette foi-là. Ça nous dit dans Romains 10, 8, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Donc, lorsque nous entendons un message de la foi qu'on reçoit dans nos cœurs, quand on entend le message prêché, bien à ce moment-là, la foi est suscitée dans nos cœurs et on peut grandir dans les voies de la foi. Amen. Donc, c'est vraiment des choses de base que je vous dis ici. Mais c'est certain, si on n'entend jamais un message de foi, c'est difficile pour nous de marcher dans ce chemin-là. Donc, ce matin, on va passer du temps, on va voir vraiment la vraie foi selon Dieu, mais en même temps, avant d'aller là, on va s'établir, on va avoir un fondement vraiment, vraiment important. Donc, premièrement, la chose qu'on veut voir, c'est Matthieu chapitre 11, versets 25 à 30. Et je vais vous lire premièrement dans la version Louis II, parce que c'est la version traditionnelle. Vous allez bien reconnaître ce verset-là. Et par là-dessus, je vais vous lire dans Bible du Sommeur parce que je trouve que c'est vraiment rafraîchissant. Donc, Matthieu 11, versets 25 à 30. Ici, on lit les paroles de Jésus. Il est écrit. « En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Amen. Dieu révèle des choses aux enfants. On parle parfois que c'est important de devenir adulte spirituel et certainement on parle d'une maturité dans les choses de Dieu. Cependant, Dieu nous appelle toujours à garder un cœur d'enfant, un cœur où on est prêt à recevoir de notre papa des paroles et recevoir ses conseils. Amen. Donc, on reste toujours un enfant avec notre Père. Au verset 28, il est écrit, c'est Jésus qui parlait, il disait, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Amen. N'est-ce pas absolument rafraîchissant de savoir ça? Moi, ce verset-là me bénit. Mais là, on va lire dans la Bible du Semeur, parce que c'est encore plus bénissant, je trouve, selon moi. Bible du Semeur, « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau. Avez-vous déjà marché? Avez-vous déjà été comme ça? Vous marchez comme ça, mais vous vous sentez comme un lourd fardeau sur vos épaules? » Peut-être pas. Ici, je pense que vous êtes tous toujours dans la victoire, mais il y en a certains d'entre vous. Des fois, vous marchez, puis là, vous avez un fardeau sur vos épaules. Bien ici, le Seigneur Jésus nous dit quoi faire. « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Là, laissez ces paroles-là descendre dans vos cœurs ce matin. Je vais passer autant de temps que j'ai besoin ce matin. Puis si on n'arrive même pas à avoir le premier point de la foi, ça ne dérange pas. Parce que si on passe à côté de cette portion-là, on va passer à côté de toutes les autres promesses. Vous savez, je peux prêcher à chaque dimanche sur plein de choses qu'on peut vivre en Dieu, mais si on ne comprend mal cette portion, la première portion que j'ai à vous partager ce matin, on ne vivra jamais véritablement la victoire. Mais Seigneur, il veut qu'on puisse saisir ses promesses, saisir ses enseignements de victoire, mais en même temps, avoir la bonne perspective. La bonne perspective va tout changer dans nos vies. N'est-ce pas merveilleux? Verset 29. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école. Des fois, on va à l'école de la tradition ou à l'école des hommes et puis on se fait enseigner toutes sortes de choses. Et si Jésus nous dit, prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. Est-ce que ça vous dérange dans votre théologie ce matin? Mais si oui, ben c'est une bonne affaire. Gloire à Dieu, ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous croyez le rapport de Dieu, si vous croyez la parole de Dieu, vous allez sortir de cette place totalement libéré d'un lourd fardeau. Amen. Dieu veut vous donner vraiment cette nouvelle vie en lui. Je vais le relire parce que je veux que ça descende véritablement. Et pour ceux qui disent, oui, mais j'étais là à l'école biblique hier, j'ai entendu ce verset-là. Mais savez-vous, peut-être que vous avez encore besoin d'être libéré. Est-ce que ça se peut? Ou peut-être que vous avez vraiment besoin de l'apprendre pour l'enseigner à d'autres. Mais je vais lire cette fois-ci dans la Bible du Semeur encore une fois. Amen. Laissez-le vraiment descendre dans vos cœurs. « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Amen. C'est ça que le Seigneur veut pour chacun d'entre vous, pour chaque enfant de Dieu. Nous sommes supposés de vivre dans le repos spirituel. Parce que le Seigneur nous appelle à agir, il nous appelle à être réveillés spirituellement et faire des choses en répondant à l'appel de Dieu sur notre vie. Cependant, quand on répond à l'appel de Dieu, nous avons toujours la grâce de Dieu pour accomplir le travail que Dieu nous appelle à faire. Si on est épuisé, si on est accablé, si on n'a pas de joie, on a passé à côté cette révélation-là que le Seigneur veut nous donner à tous et chacun. « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école. » Pouvez-vous dire « Oui, Seigneur, aujourd'hui? » « Oui, Seigneur, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. » N'est-ce pas merveilleux de le connaître? « Et vous trouverez, » ça c'est une promesse de Dieu, « et vous trouverez le repos pour vous-même. » Les inconvertis cherchent cette place de repos, de ressourcement. Heureusement, nous avons rencontré le Seigneur Jésus et nous sommes entrés dans ce repos spirituel. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on commence à marcher et faire notre vie chrétienne à notre façon. Et là, on s'épuise, on vient fatigué. Il y a toutes sortes de choses qu'on vit, que le Seigneur n'a pas en réserve pour nous. Mais ça dit, vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile. Je veux vous dire, j'aimerais ça vous demander à répéter. Facile. Mon joug est facile, il dit. Facile à porter. Dites facile à porter. Et la charge que je vous impose est légère. Légère maintenant. Mais pasteur, c'est pas du tout ça que je vis, moi. Charge facile à porter. Mais coudonc, c'est quoi? C'est une nouvelle théologie, ça? Non, 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 c'est la parole de Dieu. C'était toujours là. Ça a toujours été là. Mais des fois, dans Louis II, on lit ça, et tu dis, oui, c'est des belles paroles poétiques. Ça me fait chaud au cœur. Mais véritablement, il dit, mon joug est facile à porter. Si vous dites, ben, c'est pas mon expérience de la vie chrétienne, j'ai toujours cru que c'était difficile à porter. Il faut que je me charge de ma croix. Faut que je sois écrasé par les fardeaux de la vie. Faut que ça soit dur. Faut que je renonce à moi-même. Oui, 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 oui. Faut se renoncer. Faut renoncer à notre chair. Mais écoutez bien ceci. Ce matin, ce qu'on va voir ensemble, c'est que il nous dit, son joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. Parce que lorsque nous avons véritablement la révélation de la croix, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on rentre maintenant dans une dimension de son onction où nous avançons dans la vie chrétienne, pas par nos propres forces, mais par sa force surnaturelle qui nous propulse à agir pour lui. Alors, quand on répond à son appel, on dit « Oui, Seigneur, je veux faire telle ou telle chose pour toi. Oui, je réponds à ton appel. » À ce moment-là, la main de Dieu vient sur nous et là, nous propulse, nous fait avancer. Et là, c'est facile à porter parce que c'est à cause de lui que nous portons son appel. Nous répondons tout simplement à son appel. Vous savez, nous avons un seul combat à livrer dans la vie chrétienne. Un seul combat. Il n'y en a pas 10, 12, pas 3, pas 5. Un seul combat. Et le combat, ça se trouve dans 1 Timothée 6, 12. Il est écrit, « Combat, le bon combat de la foi. » 1 Timothée 6, 12. « Combat, le bon combat de la foi. » Vous avez un seul combat à livrer. Un seul. Si vous combattez le bon combat de la foi, vous allez dire, « Oui, mais c'est un combat en quoi, justement? C'est un combat en quoi? » Ce matin, c'est un combat dans votre foi, dans l'œuvre de la croix, tout simplement. Vous avez un seul combat. Et ce matin, savez-vous, moi j'ai à cœur de prier pour vous maintenant. Parce que certains d'entre vous, vous êtes là, vous êtes en train d'écouter par votre tête, mais je prie ce matin qu'un esprit de révélation vienne sur vous. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Père éternel, je veux prier maintenant pour mes frères et mes sœurs. Seigneur Dieu, tu veux leur faire goûter à la vie abondante. Tu veux leur faire goûter à cette vie surnaturelle. Seigneur Dieu, dans ton onction. Et Seigneur, je prie pour chaque frère, chaque sœur dans cette place. Ô Seigneur Dieu, ça fait trop longtemps qu'on te sert par nos propres forces. Seigneur Dieu, maintenant nous avons besoin d'être renouvelés, Seigneur Jésus. Oui, renouvelés dans nos forces. Seigneur Dieu, que ce soit tes forces qui prennent la place. Seigneur Jésus, j'appelle maintenant un esprit de révélation dans cette place. Ô Seigneur, et je viens contre tout esprit contraire qui voudrait distraire mes frères et mes sœurs, qui voudrait les empêcher de recevoir cette parole qui va les libérer. Je prie maintenant au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Amen. Moi, j'ai la foi, ce matin, vous allez sortir de cette place, vous aurez goûté à une différence dans vos vies. Savez-vous, dans 1 Timothée 6, 12, ça dit « Combat, le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » La perspective que Dieu nous appelle à avoir aujourd'hui, c'est justement ça. Oui, son fardeau est doux et léger. C'est facile à porter. Si je mets ma foi dans l'œuvre de la croix, il y a 2000 ans, le Seigneur Jésus n'a non seulement juste payé pour ma dette de péché, mais il a payé pour ma victoire quotidienne à chaque jour de ma vie. Donc, si Dieu m'appelle à faire quelque chose, je ne vais pas essayer d'accomplir les œuvres de Dieu par ma performance en essayant de bien faire mon travail. Ce que je vais faire, c'est que je vais placer ma foi en lui. Et je vais m'attendre que c'est sa puissance surnaturelle qui va m'équiper pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et à ce moment-là, je peux être super actif. Je peux agir et faire plein de choses. Ça ne veut pas dire quand on rentre dans le repos de Dieu qu'on se couche à terre et on cesse de travailler pour le Seigneur. Non, au contraire, on est super actif. On fait plein de choses, mais on ne s'épuise pas parce que c'est son esprit qui nous propulse. Comprenez-vous? Donc, on peut chanter, on peut faire... Vous savez, des fois, j'ai été dans des réunions de prière de 14 heures. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on vient fatigué? Mais si on reste connecté avec le Seigneur, on vient même pas fatigué parce que c'est son esprit qui nous pousse. Amen. Amen. La foi en quoi? En qui? Dans Galates 5, 7, il est écrit, « Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? » Vous savez, on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. On est sauvé par une grâce absolument surnaturelle, merveilleuse. C'est un don qu'on ne peut pas gagner ou mériter. On est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Et on peut entrer dans cette famille chrétienne par la grâce, mais après, une fois qu'on est dans cette famille, là après on pense que tout d'un coup, on doit commencer à devenir ces chrétiens qui performent, et là on marche par les œuvres, et on fait les choses par les œuvres, et on s'épuise. Mais regardez ceci, l'apôtre Paul disait à l'église ici dans Galates 5-7, « Vous courriez bien, qui vous a arrêté? Vous êtes entré dans la grâce, vous êtes entré dans cette onction surnaturelle, qui vous a arrêté? » Il voulait ramener ces chrétiens à cette place de l'onction de Dieu dans leur vie. Dans Hébreux 12, 2, vous pouvez tourner là. On a parlé, il y a un seul joug à porter, un seul combat à livrer, c'est le combat de la foi, juste ça. Ensuite, il faut avoir l'objet de la foi. Hébreux 12, 2, gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend. Voyez-vous, votre foi dépend sur quelque chose. Votre foi ne dépend jamais sur vous. Amen. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Dans Louis II, nous lisons « Jésus le chef et le consommateur de la foi ». Mais si on traduit autrement, « dont notre foi dépend du commencement à la fin ». Il a accepté de mourir sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Gardons les yeux fixés sur le Seigneur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. À quelque part, le Seigneur vous appelle à faire quelque chose pour lui, n'est-ce pas? Vous avez tous dans votre cœur, ou peut-être vos rêves qui ne sont pas encore accomplis, mais vous voyez des choses pour votre vie à l'avenir. Mais si à quelque part, dans l'accomplissement de l'appel de Dieu sur votre vie, vous dites... Écoutez, mais Joel Spinks, là-dedans, il faut qu'il rentre. Il faut qu'il performe à quelque part pour que ça l'arrive, en dehors de l'onction de Dieu. Si je dois faire des choses, une des choses ici, c'est absolument erroné. Et c'est pour ça qu'on fait fausse route parfois. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. La seule chose que le Seigneur nous appelle à faire pour répondre à son appel, c'est dire « Oui, Seigneur » et de toujours garder nos yeux sur la croix, ce que Jésus a fait pour nous il y a 2000 ans. Si je garde toujours mes yeux sur ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, je sais que la provision de l'onction que j'ai besoin pour ma vie, elle est là, elle coule à travers ma vie. Je réponds à son appel, je fais les œuvres que Dieu m'appelle à faire, je ne m'épuise point et je suis rafraîchi lorsque je sers parce que c'est toujours ma foi dans la croix. Comprenez-vous ça ce matin? J'ai prêché sur l'infirmerie du Saint-Esprit et Seigneur, même avant de vous prêcher des principes de la foi, je devais absolument vous donner un rafraîchissement à ce niveau-là. Parce qu'est-ce qui se passe? On entend les principes de la foi, on dit « Ok, ça c'est un bon principe, oui, oui, je vais faire ça, je vais faire ces bonnes choses-là. » Et c'est certain, on veut faire les bonnes choses que le Seigneur nous appelle à faire. Mais qu'est-ce qui se passe quand on fait les bonnes choses? Après un bout de temps, on pense que c'est parce que j'ai fait ces bonnes choses-là que j'ai vécu telle victoire. C'est parce que j'ai fait telle chose que là, je vis telle chose, telle bénédiction dans ma vie. Et je pourrais vous dire non, absolument pas. C'est certain, Dieu nous appelle à aller à l'église, prier. On peut faire toutes les choses possibles pour les enfants aller à l'Académie de la foi. Le Seigneur nous appelle à faire des choses. Oui, le Seigneur nous appelle à répondre à plein de choses qu'il nous donne, des bonnes choses, étudier, méditer, toutes ces bonnes choses-là. Mais, et mettre en principe, ou mettre en pratique plutôt les principes du Seigneur, certainement, mais le moment qu'on rentre dans l'équation de la victoire, là, on vient de faire fausse route, et là, on vient d'enlever nos yeux sur la croix, on a mis les yeux sur nous-mêmes, et là, on peut passer à côté des grandes choses. Voyez-vous, là, ce matin, vous dites, « Oui, mais pasteur, je pense que je saisis, je pense que je comprends qu'est-ce que tu veux dire, mais pourtant, ça semble assez simple, et tu me répètes ça. Peut-être c'est plus compliqué que je pense, et là, tu es en train de me dire des choses. Veux-tu me répéter tout ça? » Mais je suis content que vous m'avez demandé la question. Je serais content, parce que je vais faire ça, OK? 1 Corinthiens 2:2. Je vais vous inviter à tourner là. 1 Corinthiens 2:2. Comme je vous ai déjà dit, l'erreur qu'on peut des fois commettre, c'est penser qu'on a reçu la révélation de la croix sans l'avoir véritablement reçue. 1 Corinthiens 2:2. Ici, l'apôtre Paul dit, « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » L'apôtre Paul, il n'était pas intéressé d'entendre parler de rien d'autre au monde. Ici, il dit, « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Pour lui, c'est une révélation. Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Là, vous dites, « Oui, mais pourquoi il ne parle pas ici de Jésus-Christ ressuscité? » Vous allez voir dans quelques instants pourquoi. Maintenant, dans 1 Corinthiens 1, versets 23 à 24, je vais vous inviter également à prendre en note peut-être ces versets-là et méditer sur ces versets-là à la maison. 1 Corinthiens 1, versets 23 à 24. Ici, l'apôtre Paul, il dit, « Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. » L'apôtre Paul, il dit, je vais relire le texte, « Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. » Voyez-vous, la puissance de Dieu se retrouve dans l'œuvre de la croix. La puissance de Dieu pour votre vie aujourd'hui, pour répondre à l'appel de Dieu pour votre vie, pour résister à la tentation, se trouve uniquement dans l'œuvre de la croix, ce que Jésus a fait il y a 2000 ans. Si vous voulez vivre victorieusement, vous devez faire comme l'apôtre Paul et dire, « Moi, je veux rien entendre d'autre au monde que d'entendre Christ et Christ crucifié. » Puis vous dites, « Oui, mais je connais cette histoire, je connais. » Oui, mais vous avez besoin de recevoir la révélation dans vos cœurs. Priez le Seigneur, « Seigneur, donne-moi véritablement la révélation. » Parce que si vous n'êtes pas encore arrivé au point où vous pouvez dire, le Seigneur Jésus est ma victoire du début à la fin, si à quelque part vous avez quelque chose à jouer là-dedans pour saisir, pour aller acheter votre victoire plutôt, il y a un problème. Nous prêchons Christ crucifié. Amen. La puissance de la résurrection est seulement disponible à cause de la croix. La puissance de la résurrection que vous avez besoin dans vos vies est disponible seulement à cause de la croix. Sans la croix, il n'y aurait pas de résurrection. Donc, votre résurrection à chaque jour, votre résurrection, votre vie de résurrection, votre vie de victoire est seulement disponible et possible à travers l'œuvre de la croix. C'est pour ça que quand je place mes yeux sur ce que Jésus a fait à la croix le 2000 ans et je me rappelle l'œuvre de la croix et je veux vivre la puissance de Dieu, je garde mes yeux là puis je dis, Seigneur Jésus, merci parce que tu as tout accompli pour moi. Si je réponds à ton appel, si je peux te servir dans le ministère, si je peux faire les choses, c'est simplement parce que j'ai ma foi en toi et par ton onction qui coule à travers ma vie, je peux répondre et dire oui. Et là, ton esprit m'accompagne, ton esprit me pousse à agir. C'est super important. Si on ne garde pas notre focus constamment et uniquement sur l'œuvre de la croix, on rentre automatiquement dans les œuvres de la chair. Et on essaye de vivre la vie chrétienne dans la chair, par la chair. C'est difficile et c'est pénible. Mais le Seigneur Jésus, il dit, « Mon joug est doux et léger, facile à porter. » Facile à porter. Si vous dites, mais ça n'a jamais été facile, aujourd'hui, recevez la révélation que cette croix est facile à porter. Vous dites, oui, mais ça nous dit faut se charger de notre croix. Ça veut dire qu'on doit se laisser crucifier, on doit mourir à soi-même et laisser la puissance du Seigneur Jésus-Christ couler à travers nos vies. Et comme c'est lui qui porte la croix à travers nos vies, c'est facile à porter. Tout est en lui, frères et sœurs. C'est comme je place ma foi en lui. Si je peux répondre à son appel, c'est lui, par sa puissance, qu'il me donne le courage d'avancer. 1 Corinthiens 1,18, il est écrit, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La puissance de Dieu pour vos vies, elle est là. Elle est dans l'œuvre de la croix. » 2 Corinthiens 12, 10, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible en moi-même, quand on arrive au bout de soi-même puis on réalise, écoute, je ne suis plus capable d'avancer, c'est trop difficile. Gloire à Dieu, maintenant tu es un candidat pour vivre la puissance de Dieu dans ta vie. » Amen, c'est à ce moment-là. Mais autant et aussi longtemps qu'on croit, c'est par mes efforts personnels, c'est par ma consécration, c'est par ci, c'est par ça que je vais y arriver. Non! Oui, on va se consacrer. Oui, on va lire notre Bible. Oui, on va faire toutes ces bonnes choses-là. Mais c'est pas à cause de ces choses-là qu'on vit la victoire. C'est parce que Jésus l'a fait pour nous. Donc, ce que je fais, moi, je rentre dans ma victoire. Et vous savez, des fois, vous pouvez vivre des épreuves. Il y en a certains d'entre vous. Et puis, dans votre épreuve, voyez l'épreuve comme un piège de l'ennemi où vous rentrez là-dedans et vous pensez, vous méditez sur l'épreuve et vous laissez votre vie engloutir par cette épreuve. Et là, vous êtes complètement comme entouré, vous êtes terrassé par cette épreuve. Là, prenez un pas par la foi et dites, je prends un pas dans l'onction. Je prends un pas dans l'onction et là, je me rappelle ce que Jésus a fait pour moi. Le Seigneur savait que j'étais pour vivre cette épreuve et pourtant, il a tout accompli. Donc, à quelque part, je devrais être capable de vivre victorieusement et de vivre cette expérience de la joie surnaturelle. Amen. Ça, là, vous savez, si on a tous la révélation aujourd'hui, oui, on se consacre. Oui, on aime le Seigneur. Oui, on va prier, on va lire nos Bibles, on va faire toutes ces choses-là. Mais ça, c'est simplement aujourd'hui, ça fait partie de la vie du chrétien. Mais c'est pas la façon que j'achète la victoire, c'est pas la façon que j'achète la vie chrétienne que le Seigneur a déjà achetée pour moi. Et ce matin, peut-être vous dites, OK, je suis pas sûr, je comprends. Bien, demandez au Seigneur de vous révéler ces choses-là. Parce que c'est vraiment primordial pour que chaque enfant de Dieu puisse recevoir cette chose. Amen. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Et vous savez, une des choses que vous allez vivre dans vos vies, c'est que quand vous réalisez ça, vous découvrez que le Seigneur est tellement bon et là, le Seigneur vous fait sourire. Vous vous réjouissez dans la joie du Seigneur. Mon épouse me racontait hier soir, on parlait ensemble, Mathilde s'est impliquée dans un conseil dans la ville de Bromont. Et puis, il y a une femme qui est sur le conseil, en tout cas dans un des comités. Puis, elle est allée voir Mathilde, elle dit, je t'ai vu rentrer dans la salle de conseil l'autre fois. Elle dit, je te vois arriver avec un sourire. Tu souris. Je regarde des moments plus tard. Tu souris. Je regarde 15 minutes plus tard. Tu souris. Elle dit, je te vois partir, tu souris. Je te vois dans le parc, tu souris encore. Elle dit, mais tu souris tout le temps, toi. Puis là, ma femme est comme, oh, qu'est-ce que vous voulez? Mais quand on a goûté à cette vie rafraîchissante du Seigneur, on devient souriant. On devient souriant parce qu'on est conduit, on est porté par le Seigneur dans sa grâce, par sa puissance. Et là, on répond à l'appel de Dieu, puis c'est facile à porter. Puis ça griche contre la tradition. Il y en a certains d'entre vous, c'est non! Ça peut pas être facile à porter. Ça fait trop d'années que je porte cette vie chrétienne. Ça fait trop longtemps. Ça veut dire que tous mes efforts que j'ai faits, ça valait rien. Oui. Jésus a tout accompli pour vous. Il a tout payé. Il a tout fait. Vous dites oui, je rentre dedans. Merci Seigneur Jésus, tu as tout accompli pour moi. La victoire sur le péché, je l'ai. Ma destinée, elle est en toi. Gloire à Dieu, moi. Seigneur, moi j'ai juste à répondre oui. Je réponds oui et là, Seigneur me conduit. Il me donne l'onction pour accomplir ce qu'il m'appelle à faire. Donc, je vous disais tout ça, c'est long, hein? Faire l'intro comme ça, c'est long. Mais c'est super important parce que là, après, je vais vous donner d'autres bonnes choses à faire dans son onction. Parce que si je vous dis, écoutez, voici des principes surnaturels, spirituels de la foi, puis là vous dites, OK, je prends note. Principe 1, principe 2, OK, là, il faut que je fasse ceci. Je dois changer ci dans ma vie. Je dois. Et qu'est-ce qui se passe? Vous allez faillir parce que votre « je » va vous laisser tomber. C'est vrai. Là, vous allez essayer d'être victorieux, essayer de répondre à l'appel de Dieu et vous allez échouer parce que la victoire ne vient pas de vous. Impossible. Je serai en train de vous prêcher un message. Voici les principes. Et pendant la réunion, vous allez dire, « Oh, wow, yes, amen, moi, je veux les vivre, ces principes-là. Oui, je veux les victoires. » Mais vous allez être heureux juste dans la réunion. Moi, je suis vraiment concerné pour vos vies, pas juste dans la réunion. Je veux pas juste que vous soyez « Hallelujah, wouhou! » Puis après, vous sortez chez vous, puis « Ah, ça marche pas, cette affaire-là! » Puis après, vous embarquez sur le téléphone. « Ça marche pas, cette affaire-là! » Pour moi, ça marche pas. Ça marche pour les autres, mais pas pour moi. Comment ça? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Comment ça marche jamais pour moi dans ma vie? Ça va marcher pour vous. Vous devez avoir la bonne perspective. Amen? C'est pour ça que c'est important que je prenne l'intro de même. Parce que ça donne rien, le restant. Une autre chose que je dois vous dire pour l'intro, qui dure longtemps. C'est pour ça que je n'ai pas fait beaucoup d'annonces, parce que je sais que Dieu vous donne la grâce pour entendre un long message. Non, je vais essayer d'être vite quand même. OK? Vous devez aussi réaliser que vous êtes des candidats pour recevoir ce message. En autre mot, vous devez être enseignable. Dites le mot enseignable. Wow! Ça, c'est merveilleux. On peut être enseignable. Vous savez, dans Osée 4:6, il est écrit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Donc, quand on ne connaît pas des choses, on peut être détruit, se faire voler aussi notre héritage. Bon, une des choses qu'on doit vivre afin de recevoir le message véritablement, c'est être revêtu d'humilité. Dans 2 Corinthiens, verset 13, verset 5, 2 Corinthiens 13, verset 5, il est écrit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. » OK? Il faut être prêt à être enseignable et dire « Peut-être je peux apprendre quelque chose aujourd'hui. Peut-être le Saint-Esprit a des choses à me faire comprendre aujourd'hui. » Si vous êtes assis aujourd'hui et vous vous dites « Oui, Seigneur, par ma foi en toi, aujourd'hui je relâche ma foi en toi et je crois que tu vas m'enseigner des choses. Je crois aujourd'hui que je vais vivre des choses nouvelles en toi. » OK? Si votre foi est en Jésus et qu'il est capable de vous enseigner, bien, gloire à Dieu, vous êtes prêt à vous examiner et vous remettre peut-être en question, là, le Seigneur va pouvoir vous toucher et vous enseigner. Dans Proverbe 6, verset 16 à 17, je vais vous lire une autre chose, ça dit, « Il y a 6 choses que haït l'Éternel et même 7 qu'il a en horreur. » Je ne vous lirai pas toute la liste, je vais juste vous lire verset 17. « Les yeux hautains. » Une des choses que Dieu a en horreur, c'est vraiment les yeux hautains. C'est quand on pense qu'on n'a rien à apprendre. Si on n'a rien à apprendre, c'est vraiment malheureux parce qu'on passe à côté plein de belles choses que le Seigneur veut nous révéler. Vous savez, à chaque jour de nos vies, on peut grandir dans ses voies. Moi, là, mon cœur, c'est de continuer à être un étudiant au pied de Jésus et apprendre, être son élève, puis apprendre de lui. Et passer du temps à sa présence, être renouvelé, c'est mon cœur. Et moi, je veux apprendre jusqu'à temps que je meure. 1 Pierre 5,5, ça dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce ou sa faveur aux humbles. » Il s'oppose aux orgueilleux. Si vous êtes orgueilleux, bien Dieu va vous opposer. Mais si vous désirez être revêtu d'humilité, dire « Seigneur, moi je veux apprendre aujourd'hui, je veux recevoir et je suis vraiment ouvert à m'examiner et voir peut-être s'il y a des choses dans ma vie concernant la foi que je dois remettre en question et peut-être apprendre des choses nouvelles, mais Seigneur, je suis prêt. » Donc, ce matin, êtes-vous prêt? Si vous êtes prêt, une autre chose que vous devez faire avant d'entendre le message, c'est long, hein, l'intro? L'autre chose, vous devez être engagé activement dans le message. Engagé. Là, votre foi a besoin d'être là. Votre tête, votre esprit, vous devez être engagé spirituellement. Parce que je vais vous communiquer des choses, des lois spirituelles que Dieu nous a données, mais vous devez être engagé spirituellement à recevoir. Vous savez, vous pouvez être assis dans la place ici, dans l'auditorium. Vous pouvez être là, physiquement. Vous pouvez faire un beau sourire. Et vous pouvez penser au McDonald's, les frites. Je vais mettre beaucoup de sel, ces frites-là. Ou peut-être une poutine. Je vais demander extra sauce ce midi. Vous pouvez penser à ces choses-là pendant que je vous prêche. Moi, je vous regarde. Vous faites un beau sourire. Mais vous ne m'écoutez pas du tout. Ça se peut-tu? Ça se peut? Oui, ça se peut. Savez-vous comment je sais? Parce que moi, j'ai été à l'église depuis l'âge de toujours. J'étais à l'église dans le ventre de ma mère. Donc, je peux vous dire, toute ma vie, j'ai été à l'église. Et il y a plusieurs prédications que j'ai manquées. J'étais là. Non, j'étais à l'église chaque dimanche de ma vie. Mais souvent, j'étais pas là. Mais je sais que vous êtes tous ici avec moi. Gloire à Dieu. Bon. Proverbe 4, 20, 23. Vous faites tourner là. Le fait de faire l'exercice, de tourner dans la Bible, vous garde réveillé. Proverbe 4, 20, 23. Ça, c'est un bon texte ici. Vous gardez engagé spirituellement. Proverbe 4, 20, 23. Il est écrit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. » Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. On est dans le repos du Seigneur, mais en même temps, dans ce repos, on est à l'œuvre. Comment ça, à l'œuvre? Ça contredit. On est dans un repos, OK, mais en même temps, on est engagé, notre esprit est engagé dans la croissance spirituelle et on grandit et on est attentif aux paroles de notre Seigneur. Mais vu qu'on se couche dans un bain de son onction, c'est facile, on flotte. 1 Pierre 5, 8 à 10, ça dit, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. » Donc, vous êtes là, vous êtes conscient que le Seigneur vous appelle à discerner ce qui est bien de ce qui est mal, puis en même temps, il vous appelle à rester réveillé. Veillez, l'ennemi veut venir vous voler. Donc, oui, on est dans un repos spirituel, mais ce repos-là ne veut pas dire qu'on s'endort spirituellement. Voyez-vous la différence? On n'est jamais endormi. On est toujours réveillé. On est là sur nos gardes afin de ne pas se faire voler par l'ennemi. Parce que l'ennemi, en passant, il travaille 24 heures sur 24 afin de vous détruire. Il veut vous voler votre santé, il veut voler votre humeur, entre autres. Il veut voler toutes sortes de choses. Pensez-y, les bonnes choses que le Seigneur vous a données, l'ennemi veut vous voler de ces choses-là. Donc, restez réveillés, parce que Dieu vous donne la grâce afin de ne jamais dormir. C'est bon, hein? Vous n'avez pas besoin de prendre des pilules là, pour rester réveillé. Amen. Là, en plus, Jacques 1, 22, il est écrit, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Ça, c'est bon. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. » Vous pouvez passer votre vie assis à l'église à entendre des bons messages, puis là, vous dites, « Ah, c'est bon, ouais, ça fait du sens, ouais, c'est bon. » Mais là, vous pouvez juste vous borner à l'écouter et ne rien faire avec ces choses-là. Donc là, le Seigneur vous appelle à passer à l'action. OK? Ça fait du sens jusqu'à date? Ensuite, Hébreux 10, 22, 23, ça dit « Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Amen. Donc, on va être revêtu d'humilité et en même temps être engagé spirituellement lorsqu'on entend le message de la foi. Amen. Amen. Bon, là, applaudissez Seigneur. Yeah, yeah, yeah. Savez-vous pourquoi je vous dis ça? Là, c'est part 2, deuxième partie. Là, vous allez dire, OK, là, je me réveille. Amen. Applaudissez Seigneur encore. Vous avez besoin. Gloire à Dieu. Bon, là, ça me fait du bien. Là, vous applaudissez Seigneur. Savez-vous qu'est-ce qui me fait du bien? C'est de voir, hey, je viens de me réveiller, là. OK, il y en a, j'ai prêché, vous avez dormi. Revenez avec nous. Alors, ce matin, j'ai vraiment la foi, le Seigneur va faire des choses dans vos vies. Le Seigneur veut échanger votre tristesse en joie. Quand je vous ai partagé l'histoire de ma femme, comment elle sourit tout le temps, mais savez-vous, c'est pour vous, ça, enfant de Dieu. C'est pour vous. Il y en a certains d'entre vous, vous dites, oui, j'ai vécu beaucoup de souffrances dans ma vie. Bien, Dieu, dans son amour, il veut prendre votre souffrance et vous donner sa joie. Dieu, il veut faire l'échange avec vous. Dites, oui, Seigneur Jésus, je te remets ma souffrance. Il y en a qui disent, non, mais ça fait trop longtemps, je souffre, c'est mon petit bébé. Je veux pas te donner ma souffrance, ça fait trop longtemps que je le flatte. Donnez votre souffrance au Seigneur, au nom de Jésus. Non, mais je l'aime, ma souffrance. C'est mon idole dans la vie, puis j'en parle à droite et à gauche, et je sais à tout le monde comment je souffre. Mais Dieu vous dit, non. Reprends ma joie, tu vas pouvoir parler des bonnes choses que j'ai faites dans vos vies à place. J'enlève rien, mon enfant. Donne-moi ta souffrance, moi je vais te donner ma joie. En plus, les gens, quand ils vont te voir, ils vont vouloir te côtoyer. Ils vont dire, hey, ton sourire, ta joie, moi je veux en avoir, est-ce que tu en as d'autres à me donner? C'est comme ça que ça marche, enfant de Dieu. Ne soyez pas séduits par Satan, pensant que la souffrance ou vos histoires d'horreur qui sont un cadeau de Dieu. Non, Dieu a des meilleures choses en réserve pour chacun d'entre vous. Amen. Oh, c'est un jour nouveau, si vous voulez. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, mais si tu ne crois pas ce que Dieu dit, et on aime mieux notre opinion et nos pensées personnelles, vous restez pareil pendant 25 ans dans la vie chrétienne sans changement. En passant, pas de changement. On ne fait pas de changement, on ne vivra pas de changement. Mais si on est prêt à faire des choses différentes et commencer à laisser le Saint-Esprit nous changer, on va changer. Gloire à Dieu. Bon, maintenant, la définition de la foi. Hébreux 11, verset 1. On commence l'enseignement. Êtes-vous prêts ce matin? On commence finalement, après une demi-heure d'intro, on va commencer le message. On va parler de la foi triomphante ce matin. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et là, je vais vous lire dans la Bible, la Nouvelle Bible Sommeur. Au second plutôt, Nouvelle Bible Sommeur. Or, la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas. Dans Parole de vie, maintenant, ça dit, croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère, c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Ça, c'est bon. Puis j'ai hâte de vous partager les autres affaires. J'ai trop hâte. Il faut que je fasse attention. Suivez mes notes. Parce que je ne veux pas me devancer, parce que vous n'allez rien comprendre. Bon, définition de la foi, on vient de comprendre, hein? Je vais le relire. C'est une façon de posséder déjà les choses qu'on espère. Vous espérez vivre des choses, mais vous l'avez déjà dans votre cœur et vous savez, c'est à vous. C'est la foi, ça. Vous priez, admettons, vous voulez vous marier et vous priez pour la volonté de Dieu. Bien, par la foi, vous recevez déjà votre mari par la foi. Ou par la foi, vous recevez déjà votre épouse par la foi. Vous avez besoin des amis? Par la foi, vous avez plein d'amis. Et vous remerciez le Seigneur. À chaque jour, vous le remerciez. Merci, Seigneur Dieu, pour la trollée d'amis qui s'en viennent chez nous. Merci, Seigneur Dieu, parce que je vais être obligé d'inviter plein de personnes autour de ma table. Merci parce que tu me donnes l'argent pour inviter plein de monde. Alléluia! Oh, c'est merveilleux. L'importance de la foi. C'est important d'avoir de la foi. Il y a des gens qui disent, « Oh, cette église-là de la victoire, ils prêchent toujours sur la victoire. » C'est des chrétiens qui prêchent toujours sur la foi. Oh, je te dis, c'est-tu fatigant tout le temps entendre la foi, la foi, la foi. Hébreux 11, verset 6, ça dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Sans la foi, on pourrait s'appeler l'église de la défaite, mais on ne fera pas plaisir à Dieu. On ne changera pas notre nom, église de la défaite et de la dépression et de la souffrance du Québec. Non, on ne fera pas ça au nom de Jésus. Ça dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, ok, oui, on croit ça, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On s'attend de vivre quelque chose et on s'attend que lorsque nous prions, le Seigneur va répondre à nos prières. On s'attend, c'est tout à fait normal. Oui, on est extrême, on croit que Dieu, il dit toujours la vérité, et en passant, on s'attend que lorsque nous prions, Dieu répond. On est extrémiste, c'est vrai. Hébreux 10, 38. « Mon juste vivra par la foi. » Gloire à Dieu. Puis là, ça dit, « Mais s'il se retire de la foi, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Voyez-vous, le mot « plaisir » et « plaire », ça se ressemble, hein? À quelque part, si on veut plaire à Dieu, nous devons devenir des chrétiens de la foi. Nous devons être des chrétiens... Les gens qui disent, oui, Seigneur, je crois ta parole, et Seigneur, je crois plus ta parole que mes émotions, je te crois plus, Seigneur, que mes opinions et mes pensées. Et je suis prêt à me débarrasser de l'idolâtrie dans ma vie où j'ai exalté mes opinions, puis tous mes raisonnements humains, et Seigneur, je mets toutes ces choses à la terre et je dis, je choisis aujourd'hui ta parole, Seigneur Jésus. Je choisis ta parole, je crois ce que tu dis, et moi, ce que j'en pense, ça rentre pas dans l'équation. C'est ce que toi, tu dis qui compte. Et remarquez, si vous voulez marcher dans la victoire, le discours de la victoire, c'est des gens qui vont citer la parole de Dieu. Des gens qui refusent de vivre dans la victoire, qui refusent carrément qu'un coup raide, qui disent « Moi, je ne changerai pas au nom de Jésus », mais ces gens-là ne parlent pas la parole de Dieu. C'est pas la parole qui sort, c'est autre chose. Mais gloire à Dieu, nous sommes les personnes qui décidons aujourd'hui de marcher dans la victoire et dans la foi. Maintenant, ok, bon, c'est bien. Donc, la définition de la foi, on l'a vu. L'importance de la foi, c'est... Bon, vous êtes convaincus que c'est important d'être des gens de la foi? Ou j'ai besoin de reprêcher une autre demi-heure? C'est bon? Vous ne faites pas des menaces, pasteur, on a faim. Les composantes de la foi, maintenant. J'invite à tourner dans Romains, chapitre 12, verset 3. Il y a des gens qui disent, oui, mais moi, j'ai pas beaucoup de foi. Je pense que quand Dieu a donné la foi à certaines personnes, il m'a carrément oublié. J'ai de la misère à croire. Moi, je pense pas que j'en ai de la foi. Le point numéro un, si vous prenez des notes ce matin, nous avons tous une mesure de foi. Romains 12, 3, il est écrit, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Amen. Donc, nous avons tous la foi. Chaque personne ici a la foi en quelque chose. Amen. Nous avons tous la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas la foi? Impossible. C'est soit que vous avez la foi en Dieu ou peut-être dans l'horoscope ou d'autres choses, mais vous avez tous la foi. Ça dépend juste l'objet, mais nous avons tous une mesure de foi. N'est-ce pas merveilleux? Numéro 2. La foi est mesurable. Vous pouvez sortir votre galon à mesurer et mesurer votre foi. Saviez-vous ça? Elle est mesurable, cette foi-là. C'est une nouvelle révélation. On va voir. Luc 17, 3 à 6. Ici, on voit le texte. Les disciples qui parlaient au Seigneur. Bon, on commence au verset 3. « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant, « Je me repens », tu lui pardonneras. » Jésus parle à ses disciples. Et là, ses disciples trouvent, « Wow, c'est pas mal heavy duty. C'est très, très lourd, ça, à porter. » Là, verset 5, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » C'est comme, c'est bien trop difficile, ça. Augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, de moutarde minuscule, vous diriez à ce sycamore ou l'arbre ici, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Ici, Jésus est en train de dire, même si tu as la foi, si comme ça, microscopique, c'est assez pour déraciner un arbre. Amen. Donc, on peut tous dire, « Wow, je veux la plus petite foi possible! » Est-ce que c'est ça le but? Non, non, non. On voit également dans Matthieu 8, 10, le centenier avait une grande foi. Jésus, le Philistin, il dit, « J'ai jamais vu en Israël une foi aussi grande. » Donc, on voit ici une grande foi et une petite foi. Mais pourtant, les petites fois, grandes fois, médium, extra large, toutes ces fois-là, s'ils sont concentrés et hautement concentrés, OK, ils sont vraiment efficaces. Gloire à Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que votre foi soit forte. Et la seule façon que votre foi soit, qu'elle soit vraiment forte, c'est si elle est ancrée à la bonne place. Très important. C'est vraiment une petite foi peut être très puissante. Une grande foi peut être très puissante. Qu'elle soit grande ou petite, elle doit être fortement concentrée. Forte ou faible, mais déterminée par l'objet de votre foi. Et on voit dans Romains 4, 19, c'est dit, en parlant d'Abraham, « Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. » Donc ici, on peut voir qu'Abraham avait une foi forte. Donc, une des choses qu'on doit faire, c'est pas garder nos yeux sur nous-mêmes et commencer à s'évaluer comme ça, mais c'est de dire, est-ce que, premièrement, la foi que le Seigneur m'a donnée, est-ce qu'elle est dans un bon focus? Si, à chaque fois, on place notre foi en Jésus, notre foi devient très, très forte. Et la seule façon qu'elle est vraiment forte, c'est lorsque nous sommes convaincus dans nos cœurs. Amen. Donc, on est convaincu que Jésus est la source. On est convaincu que Jésus a la réponse. On est convaincu que notre délivrance vient de Jésus. Donc, elle est fortement concentrée en lui. Amen. Amen. Donc, il y a eu tout un mouvement. Des fois, on a parlé de la grande, pas la grande foi, mais tu sais, moi, j'ai besoin de beaucoup, beaucoup de foi. Et là, on va au séminaire pour avoir beaucoup de foi, beaucoup de foi, beaucoup de foi. Et là, ça devient de l'idolâtrie même dans nos églises. Parce qu'on va avoir beaucoup de foi. Et là, il y a des gens qui pensent qu'ils ont beaucoup de foi. Et après, là, on a des yeux hautains, et là, Dieu dit, ben, je suis obligé de m'opposer à cet homme, parce que là, il pense qu'il est plus grand que moi. Voyez-vous les petits problèmes qu'on a eus? Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est avoir la foi hautement concentrée dans l'œuvre de la croix. Ça revient toujours à la même chose. Toujours, toujours. Savez-vous, comme on dit en anglais, ça dit, « It's not about you ». En français, je ne sais pas comment le dire, mais c'est pas à cause de vous. Savez-vous, c'est à cause de Jésus. Jésus est toujours le centre de l'univers. Si notre foi est placée en lui, on est toujours gagnant. La foi vient d'un seul moyen. Là, il y a des gens qui disent, « Oui, mais moi, j'aime ça prier, Seigneur, donne-moi plus de foi, grossis ma foi, Seigneur Jésus. » Mais c'est pas comme ça. Romains 10, 17, ça dit, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Ou dans la Bible du Sommeur, il est écrit, « La foi naît du message que l'on entend. » Le plus qu'on entend un message de foi, le plus que notre foi va être redirigée vers l'œuvre de la croix, et là, notre focus va être vraiment établi dans le Seigneur. Notre foi va vraiment être reliée, établie dans le Seigneur. Donc, la foi vient d'un seul moyen. Même si vous priez, les disciples, les apôtres aussi disaient, oh, « Augmente-nous notre foi. » Mais Jésus n'a pas dit, « Ah, oui, OK, bingo! » Voilà, tu as une foi super size maintenant. C'est pas ça qu'il a dit du tout, Jésus. Il a dit, c'était pas ça l'objectif ici. Il voulait même leur faire comprendre, c'est pas la grosseur de ta foi, c'est la concentration de votre foi. Amen. Donc, la vision sur le Seigneur Jésus. La foi triomphante, quatrième point. La foi triomphante dépend de l'amour. Si vous voulez avoir, admettons, vous voulez vivre des percées dans vos vies, mais vous avez un problème avec l'amour, ça ne marchera pas, voyez-vous. 1 Corinthiens 13, verset 2, il est écrit, « Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, je connais plein d'affaires, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité ou si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Amen. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. 1 Corinthiens 13, 13, maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Ce matin, là, si on veut vivre des percées, on veut avoir une foi triomphante, on doit être des gens ancrés dans l'amour du Seigneur et toujours avec nos yeux sur la croix, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Une autre chose que le Seigneur va permettre, il va permettre l'épreuve de votre foi. OK, l'épreuve. Il y a une différence entre l'épreuve de votre foi et la tentation vers le péché. Il y a des gens, des fois, qui disent, ben, le Seigneur m'a envoyé telle tentation, puis là, j'ai pas été assez fort, puis là, j'ai tombé. Ça, c'est erroné. C'est pas la parole de Dieu. Dans Jacques, chapitre 1, verset 13, c'est écrit, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut pas être tenté par, ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Donc, Dieu ne vous tentera jamais à commettre l'adultère, enfant de Dieu. Il y a des gens qui disent toutes sortes d'affaires. On entend des choses. Mais Dieu ne vous tentera jamais de commettre un péché. Jacques 1, versets 2 à 3, il est écrit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc, réjouissez-vous lorsque votre foi est éprouvée. » Amen. Vous dites, oui, mais j'ai pas le goût. Ça change rien, ça. Mais quand votre foi est éprouvée, c'est merveilleux parce que vous allez devenir plus patient et persévérant dans les choses de Dieu. Je peux vous partager une courte histoire. Quand mon épouse et moi, on était au début de notre ministère, on allait comme évangéliste aux États-Unis et on avait été aussi au Nouveau-Brunswick chanter. Et on conduisait pendant 10-12 heures. On était comme très loin au Nouveau-Brunswick. Et Mathilde et moi, on était là, on parlait ensemble, bien sûr, en chemin. Et là, pendant une heure, on était dans le bois. Il n'y avait même pas de station essence. C'était vraiment très, très loin dans le bois. Et c'est rien, c'est pas pour parler contre le Nouveau-Brunswick, pour mes amis sur l'Internet, on vous aime bien. Mais on était dans l'auto, puis là, ma femme était comme, « Wow, c'est vraiment à l'autre bout du monde ici. » Elle dit, « Oh mon doux, ouf, je voudrais jamais vivre ici. » Et puis finalement, on arrive, on va à l'église. Et puis, là, je fais du ministère là-bas. Après la réunion, le pasteur me demande, il dit, « Écoute, on veut t'offrir une job. Voudrais-tu être pasteur avec nous? » Et là, j'ai dit, « Ben, on va y penser. » Sauf que là, j'ai dit, « On va penser, on va vous rappeler. » Là, on arrive chez nous, on est de retour à Bromont, dans la terre promise. Et voilà, là, j'appelle le pasteur. On a mais vraiment pas le goût d'y aller, là, pas le goût. J'appelle le pasteur, puis je dis, écoutez, pasteur, merci beaucoup pour l'offre, mais finalement, c'est correct, on va laisser faire. Ah, oh, OK, je comprends, pas de problème. On raccroche. Là, ma femme, elle est dans la cuisine, moi, je suis dans le salon, elle dit, mais d'un coup, si on passe à côté de l'appel de Dieu sur notre vie? Je dis, ben là, tu me dis, tu voulais rien savoir. Elle dit, ben là, d'un coup, c'est Dieu, là. Je dis, OK, je le rappelle. Écoutez, pasteur, OK. Ben peut-être, là, on serait prêt à considérer tout ça. Ah, OK, parfait. Ben revenez au Nouveau-Brunswick et là, tu vas passer devant le conseil, on va passer en entrevue. Bon, bravo. Sauf que là, je m'en vais là-bas avec Mathilde. Moi, je passe devant le conseil pendant, je pense, un bon deux heures. Je me pose toutes les questions théologiques possibles. Là, je passe, on dit en anglais « grilled », grillé sur barbecue, si vous voulez. Et là, on pose des questions, je réponds. Puis bon, parfait, ça passe, on veut t'engager, gloire à Dieu. Merveilleux. Sauf que là, ils veulent m'engager. Et qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on retourne à Beaumont. Et là, le pasteur, il me rappelle. Il dit, écoutez bien, la famille fortunée de l'Église vient de déménager et on sera pas capable de payer ton salaire. On va être obligé d'emprunter un an de salaire pour t'engager, mais on veut t'engager quand même. Ah, OK. Êtes-vous prêt à venir ici si on fait ça? J'ai dit, oui. Et là, il dit, ben, on va passer un vote à l'Église. Le vote qu'on va mettre, il dit, faut que 80% des membres de l'Église acceptent qu'on t'engage et qu'on emprunte l'argent pour t'engager. Donc, priez vraiment que ce soit 80% qui veulent. Je dis, OK, pasteur. Donc, moi, je suis à Bromont, lui est au Nouveau-Brunswick. Là, le pasteur, il me rappelle. Il dit, écoute, on a eu notre vote de conseil avec les membres de l'Église, tout ça. Puis, finalement, c'est 78% qui étaient prêts à emprunter. On peut pas t'encourager. Il dit, j'imagine que c'est la volonté de Dieu. Là, sa femme a dit en anglais, « Not the will of God! » Elle était frustrée. Pas la volonté de Dieu. Mais là, nous, « Ah, il n'y a pas de problème, pasteur. Faites-vous-en pas. C'est pas de problème. » On raccroche. Puis on se réjouissait. Puis c'est rien contre votre église, si vous m'écoutez, pasteur. Non, on vous aime. Mais notre cœur n'était pas là-bas. Mais Dieu nous passe à l'épreuve. Vous dites, ben, je crois pas là-dedans que Dieu passe à l'épreuve. Ben, on vient de le lire, premièrement, puis lisez la Bible en passant. Lisez Abraham. Avez-vous déjà entendu parler d'Abraham, Isaac? Lisez d'autres passages en Bible, vous allez voir que Dieu passe les gens à l'épreuve. Mais Dieu ne passe jamais les gens à l'épreuve par la malédiction. Ça, c'est un problème. Faut discerner. Dieu dit pas, ben, je t'envoie un petit cancer, on va voir si tu m'aimes vraiment. C'est pas comme ça. Dieu ne passe pas à l'épreuve par la malédiction. C'est toujours par d'autres choses, comme je viens de vous dire, le Nouveau-Brunswick. Non, non. Ça nous tentait pas, tout simplement. Notre cœur était ici. Mais là, qu'est-ce qu'on a fait? On a vu, Dieu nous avait passé à l'épreuve. Êtes-vous prêt à être éloigné de votre famille? Êtes-vous prêt à aller dans une place que vous n'aimez pas? Êtes-vous prêt à vivre toutes sortes de choses que ça vous tente vraiment pas? Dans la chair, ça vous tente pas, mais êtes-vous prêt à le faire? Et notre réponse était, si Seigneur, c'est ça que tu veux, on va le faire. Bon, vu qu'on avait passé ce test-là, puis c'est pas pour dire gloire à nous, c'est juste vous expliquer un petit peu comment ça marche des fois dans la vie. Vu qu'on avait dit oui à Dieu là, quand c'était quelque chose d'intéressant, Seigneur, il a dit, je connais leur cœur, ils sont pas là juste pour l'argent, ils sont pas là parce qu'il y a toutes les belles conditions. Maintenant, je vais leur donner une promotion pour vivre d'autres choses. Et là, on a vécu une petite saison en Alberta et on était super bénis. Mais c'est pour ça qu'on a passé des tests. Il y a toutes sortes de choses que je pourrais vous raconter pendant des heures. Pendant le pique-nique la semaine passée, j'ai raconté plein d'anecdotes de ma vie, plein de choses où on a vu la main de Dieu. Puis c'est édifiant, c'est bénissant de voir la main de Dieu dans nos vies. Mais tout ça pour dire que la foi, c'est comme ça. Des fois, elle doit être éprouvée. Gloire à Dieu. Immondou. OK. Donc, gloire à Dieu pour ça. Le sixième point, la foi a un jumeau. La foi a un jumeau, OK? Donc, vous dites, oui, moi j'ai la foi, mais si vous connaissez la foi, si vous avez la foi, vous devez également connaître le jumeau de la foi, et son nom s'appelle patience. Hébreux 10, 35 à 36, il est écrit, « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance. » Ou de patience, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Donc, Dieu a des promesses pour vous. Souvent, les gens, juste avant d'arriver à la place de la victoire, bon, ils se découragent, puis ils cessent de marcher avec le Seigneur, ou ils cessent de croire pour telle promesse. Donc, ça, c'est une chose importante qu'on doit comprendre. Oui, OK, je crois telle promesse, mais là, je dois poursuivre jusqu'à temps que je vois vraiment la manifestation de la promesse dans ma vie. Amen. Donc, si vous n'avez pas encore vu la manifestation, vous restez attaché à cette promesse-là jusqu'à temps que vous puissiez accoucher de la promesse de Dieu. Amen? Amen. Donc, en terminant, il me reste encore 5 minutes. Gloire à Dieu. Et je vais vous inviter à tourner dans Marc 11, versets 22 à 24. Parce que là, on a parlé de la foi. Vous connaissez tous maintenant. Comment ça fonctionne, la foi, les composantes? On a tous la foi, on a tous une mesure de foi. On sait où la placer, c'est jamais en nous, c'est toujours dans la croix. On comprend aussi que la foi peut être en même temps éprouvée, toutes ces choses-là. On doit vraiment persévérer dans la foi, jamais perdre courage. Maintenant, il y a une chose dans le pratico-pratique, pour un mot vraiment à la française, mais pratico-pratique. La loi spirituelle de la foi, comment elle va être opérée dans vos vies à chaque jour? Et ici, on parle de la confession de la parole de Dieu. La confession de la parole de Dieu. Et des fois, quand on parle de la confession, les gens s'imaginent l'Église catholique, puis on s'en va à la confesse. Okay? La confession, c'est pas la même chose. Oui, on peut confesser nos péchés, mais si on parle la confession, ce qui sort de nos bouches révèle la foi qu'on a dans nos cœurs. Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Donc, c'est absolument important qu'on comprenne que ce que nous prononçons de nos lèvres détermine notre vie. Amen. Marc 11, versets 22 à 24. Que Dieu vous donne la grâce pour le restant parce que ça va vraiment vous aider si vous êtes intéressé à vivre de la victoire dans vos vies. Il est écrit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Et dans le grec, c'est dit, ayez la foi de Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, peu importe la montagne d'épreuve, mais d'ici, quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit, écoutez bien, croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce que je dis, ce que je crois que je dis, arrive, enfant de Dieu. Si je parle de ma réalité, je vais continuer à vivre dans ma réalité. Si je parle de mon quotidien, voici ce que je vis constamment et je parle de ce que je vis constamment, je vais continuer à vivre ce que je vis constamment. Dieu ne nous dit pas de parler à propos de la montagne d'épreuves. Il nous dit jamais de parler et de décrire notre montagne. Elle est grosse, elle est laide, je ne l'aime pas. Ma montagne est comme ci, ma montagne est comme ça. Dieu ne nous dit pas de parler à propos au sujet de notre montagne. Il nous dit de parler à notre montagne. Ça ne l'a pas enregistré. Je vais le relire. Mais crois ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Je vous dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point à son cœur, mais croit, il croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je peux prendre des promesses de la parole de Dieu, je m'accroche à cette promesse-là, et je peux commencer à dire que ça l'arrive. Parce que je me mets en accord avec ce que Dieu dit sur ma vie. Et là, admettons, mes enfants s'en allaient dans une mauvaise direction, je peux commencer à dire, « Oh, la montagne de rébellion au nom de Jésus, elle quitte ma maison au nom de Jésus. La montagne de rébellion, la montagne de maladie dans ma vie, elle quitte au nom de Jésus. Je crois que cette montagne de maladie quitte ma vie. Cette montagne de dépression qui se dresse devant moi, au nom de Jésus, tu te tasses de ma vie. La solitude qui est dans ma vie, au nom de Jésus, tu quittes ma vie. » La dépression, la dépendance au nom de Jésus, ma foi n'est pas en moi-même, ma foi est toujours reliée à la croix. La puissance de Dieu coule à travers moi et je décrète de ma bouche la montagne de dépendance à la cigarette, à l'alcool, peu importe. Au nom de Jésus, tu te tasses de ma vie. Tu quittes ma vie au nom de Jésus. Dieu dit que nous pouvons avoir ce que nous disons de notre bouche. Mais souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on dit simplement ce qu'on a et on reste avec ce qu'on a. Dieu ne nous a jamais dit qu'on peut se plaindre et parler de nos épreuves pour s'en sortir. Il dit, parlez à la montagne, parlez à la montagne, parlez jusqu'à temps qu'elle disparaisse. Et là, vous commencez, comme on vient de lire, ça dit, là, regardez, ça dit ici, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Si vous avez besoin plus de joie dans vos vies, vous l'avez déjà reçu parce que le Saint-Esprit est en vous et vous avez le fruit de l'Esprit en vous. Mais là, vous remerciez Seigneur parce que la manifestation est là. Je te remercie Seigneur Jésus parce que moi, je suis un chrétien rempli de joie. À chaque jour de ma vie, je me réveille et j'ai le goût de te célébrer. Alléluia! Merci Seigneur Jésus parce que dans ma famille, tout le monde sont heureux. Alléluia! C'est ça qu'on dit. Oui, mais c'est pas la réalité. Oh, mais c'est la vérité. C'est pas votre réalité, mais c'est la vérité de Dieu. Vous voulez vivre selon la réalité du monde terre à terre? Ben, continuez. Mais si vous voulez vivre la vérité de la parole de Dieu, mettez-vous en accord avec Dieu. Dites, Seigneur, tu l'as dit, je crois ta parole. C'est impossible que votre vie va demeurer de la même façon. Je peux vous garantir, c'est impossible. Je l'ai essayé, ça marche. Dieu dit toujours vrai. Si vous croyez Dieu, vous vous mettez en accord avec Dieu, vous parlez comme Dieu, pensez comme Dieu, votre vie va changer. Si votre vie ne change pas, ne regardez pas plus loin, regardez à vous-même et dites, Seigneur, j'ai l'humilité d'être enseigné ce matin. Je l'ai dit tantôt, j'ai l'humilité, je suis prêt à me remettre en question. Et aujourd'hui, Seigneur, viens me zapper, transforme ma vie. Viens me transformer. Viens me transformer, Seigneur Jésus. Et savez-vous, Dieu va dire, « Youpi, finalement, je peux faire quelque chose dans ta vie. Finalement, tu vas te mettre en accord avec moi. Finalement, tu vas me laisser agir dans ta vie. Finalement, tu me donnes plus de place dans ta vie. » Amen. Oh, le Seigneur, là, je vais arrêter là parce que j'ai d'autres notes. On va continuer la semaine prochaine sur la foi triomphante. Il y a plein d'autres choses que je veux vous partager. Parce que la foi dans le Seigneur marche toujours. Ça marche, la foi. Si c'est écrit, ça fonctionne. Mais là, faut que ça change dans nos cœurs. Faut qu'on dise au Seigneur, je vais inviter l'équipe de la louange, faut qu'on dise au Seigneur, écoute Seigneur, aujourd'hui je suis prêt. Je suis prêt à faire du ménage dans ma vie. Et là, je suis prêt à commencer à vivre les promesses de Dieu. Êtes-vous prêt à commencer à vivre plus de Dieu dans vos vies? Plus de la présence de Dieu? Vivre plus les promesses? Arrêtez de parler des choses dans la réalité. Commencez à changer votre vocabulaire pour parler la vérité de la parole de Dieu. Ça va changer vos vies à tout jamais. Et la semaine prochaine, on va voir comment ça fonctionne encore plus. Mais ça va être merveilleux. Mais là, au moins, vous avez la base. Vous savez que c'est pas à cause de votre performance, c'est toujours à cause de l'œuvre de la croix. Comprenez, hein? Sinon, la semaine prochaine, je vais reprêcher la croix, là. Je vais reprêcher. Je vous avertis, là. C'est mieux de dire amen, là. Amen. Amen. La victoire qu'on vit, ça ne repose jamais sur Joel Spinks, sur vous. La victoire ne vient pas de vous, elle vient de Jésus. Amen. Et on se réjouit parce que ça ne vient pas de nous. On fait juste dire oui, Seigneur. Hey, tu me dis comment parler, man. Il me dit même comment parler. Parce qu'il est tellement en amour avec nous, il veut qu'on puisse vivre cette victoire à chaque jour. Gloire à Dieu. Dieu veut vous donner la victoire. Hey, je veux juste vous lire un verset qui est super bénissant. Ésaïe 1, 19 à 20, dans la Bible du Sommeur, ça dit, « Si vous décidez à m'obéir, ça prend une décision de votre part, si vous décidez à m'obéir, vous mangerez les meilleurs produits du fruit. Vous mangerez les meilleurs produits du fruit. Mais si... du fruit, du pays, pardon. Et ça inclut des pays, des fruits. Okay. Vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous refusez, si vous êtes rebelle, si c'est l'épée qui vous mangera, l'Éternel le déclare. Je vais le relire. Si vous décidez à m'obéir, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous refusez, si vous êtes rebelle, c'est l'épée qui vous mangera, déclare l'Éternel. Donc, qu'est-ce qu'on veut, là? On veut la volonté de Dieu dans nos vies. On ne veut pas être rebelle, on veut avoir le coup souple et dire, Seigneur, viens me changer, viens me transformer. Je suis le candidat pour vivre la victoire. Je suis un candidat aujourd'hui pour vivre la liberté. Je suis un candidat pour vivre des percées dans ma vie. Moi, j'ouvre mon cœur pour recevoir tout ce que tu veux pour moi, Seigneur Dieu. Je suis plus limité par moi-même. Je n'ai plus d'idolâtrie dans mon cœur. Mais Seigneur prend toute la place. Et bien, est-ce qu'on peut se lever ce matin? On peut l'acclamer pour les promesses. On peut l'acclamer ce matin pour la victoire qui est pour nous au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Oh Seigneur Jésus, on veut te remercier pour ton amour, Seigneur. Ton amour éternel pour chacun d'entre nous. On veut te remercier, Seigneur Jésus, pour ta parole aussi qui ne change jamais. Merci, Seigneur Dieu, parce qu'on peut s'attacher à toi, Seigneur. On te remercie pour toutes tes promesses qui sont oui et amen pour chacun d'entre nous. Merci pour le privilège qu'on a de plonger dans ta parole et découvrir notre héritage. Merci, Seigneur Jésus, qu'on peut se réjouir même avant la percée, même avant la manifestation. On peut se réjouir pour la promesse que tu nous donnes. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu as transformé nos vies. Tu changes nos vies pour le mieux, Seigneur Dieu. On veut te remercier, Seigneur. On veut te remercier, Seigneur, pour ta présence dans nos vies. On te remercie parce que tu nous gardes, Seigneur, comme la prunelle de ton œil, parce que tu nous aimes avec un amour éternel. Oh, merci, Seigneur Jésus. Et Seigneur, je prie pour mes frères et mes sœurs dans cette assemblée aujourd'hui. Je prie que ta riche bénédiction puisse se manifester dans leur vie. Oh, Seigneur, que la voix de ton Saint-Esprit soit tellement forte dans leur cœur qu'ils n'entendent même plus la voix de l'ennemi. Que ta voix soit tellement forte, Seigneur Jésus, qu'ils puissent vraiment se concentrer sur ta voix et ta voix seule. Oh, merci, Seigneur Jésus, pour les miracles que tu fais dans les cœurs de chaque personne dans cette église. On le prie au nom de Jésus et je décrète sur chaque taille ce matin ton shalom, rien de brisé, rien de manquant au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, on peut acclamer le Seigneur ce matin pour sa présence, pour sa bonté dans nos vies. Amen. Gloire à Dieu. Amen.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.